au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes prêts à parler automobile au cours des deux prochaines heures en compagnie de Marc Bouchard et Philippe Lagu. Nous allons évidemment répondre à vos questions, nous allons vous parler, nous allons vous informer sur le monde de l'automobile et on parle immédiatement à Philippe. Salut Philippe!
Salut Daniel!
Comment ça va?
Ça va très bien aujourd'hui.
Oui, t'es de bonne humeur. Hey, ton sujet aujourd'hui, faire rêver le monde.
Tu viens de répondre à ta question, tu me demandes comment je vais, tu me demandes ça la journée où je vais parler de la Corvette. C'est sûr que ça va bien.
Wow! Hey, ça va être la fun.
Oui, ça c'est... Puis je le dis, hein, j'ai aucune gêne à le dire, parce que nos opinions... Même si on est des chroniqueurs automobiles, on a nos préférences.
Ouais.
C'est pas mal ma voiture préférée. Voilà, c'est dit.
C'est dit, hein? Pas plus que ça.
C'est Philippe, mon statement.
Oui, c'est ça. Et on va en apprendre beaucoup sur l'histoire. Et même, il y a des nouvelles pour l'avenir également de la Corvette qui pourraient être intéressantes.
Oui.
Alors, on va jaser de ça un peu plus tard. Mais reste là, Philippe, parce que je veux que tu me parles un petit peu tout à l'heure de la question du jour. Salut Marc, comment ça va?
Salut mon cher.
Ah, ça va bien toi?
Ah, le faux.
Le faux.
C'est beau samedi, chaud malgré tout, là.
Oui, il fait chaud, on est bien. Marc, écoute, on a une question du jour qui est assez importante. On a aussi beaucoup de nouvelles de l'industrie, mais on va y aller tout de suite avec la question du jour parce qu'on a jasé ensemble et ça découle un peu de la question de la semaine dernière parce que la semaine dernière, souvenez-vous, je vous ai demandé comment ça va avec votre technologie? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous l'utilisez de façon adéquate? Est-ce que ça vous frustre, etc.? Les réponses ont été extraordinaires de la part des auditeurs. On a eu des réponses qui nous ont amené un peu vers la courtoisie. Par exemple, là, lorsqu'on parlait d'angle mort, les gens ne se fient uniquement qu'à leur lumière ou l'avertisseur sonore. On ne se tourne plus la tête, on vire, on coupe le monde, ça crée des frustrations. Alors, ça m'amène à la question du jour qui est un peu découlée de celle de la semaine dernière. Quel comportement des autres automobilistes vous répugne, vous agresse? C'est quoi que les autres font que vous aimez pas? On met pas le clignotant, on freine trop rapidement, etc., etc. Je pense que c'est une question qui va soulever pas mal d'intérêt, Marc.
Oui, effectivement. Et je peux te dire, moi, dès le départ, que les gens qui roulent dans la voie de gauche sur l'autoroute à 90 km/h, ça m'horripile. Ça me met hors de moi. C'est une voie de dépassement. Tassez-vous. Ça, c'est quelque chose... Et je fais beaucoup, beaucoup d'autoroutes parce que, à cause de mon travail, je suis appelé à me déplacer souvent. Et c'est l'affaire qui me met le plus hors de moi. D'autant que moi, je suis quelqu'un qui ne dépasse pas par la droite. Ça va contre tous mes principes. Alors, je suis patient derrière, mais j'ai la patience un peu courte à l'occasion.
Bon, quelqu'un qui a énormément de patience, c'est Philippe, là. Philippe, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose qui t'agresse, toi.
Ben non, la patience, hein, c'est pas sûr que ça fait partie de mon ADN, mais ce qui mérite le plus, d'abord, ce que Marc a mentionné, moi aussi, je pense que les gens qui roulent très lentement dans la voie de gauche, c'est une cause de rage au volant. Ça joue dans deux sens, ça, là.
Oui, hein?
Et, oui, non, mais c'est vrai. Ils exaspèrent les gens, puis ils décident de jouer à la police et de ralentir eux-mêmes le trafic. Première chose. Deuxième chose, ceux qui collent au derrière, c'est pas mieux non plus, là.
Non,
si quelqu'un vous exaspère en avant, bon, c'est correct, prenez votre mal en patience, mais y coller au derrière, c'est pas la solution non plus. Attendez qu'il se tasse ou... Mais en tout cas, faites un appel de phare au moins, tu sais.
Au moins.
Plutôt que d'y coller au derrière, parce qu'à partir de là, vous multipliez par 10 et peut-être même par 20 et même par 50 les risques d'accident. Voilà.
Alors, j'ai bien hâte. Merci. On se parle un peu plus tard, Philippe. J'ai bien hâte de vous entendre sur le sujet du jour parce que ça va amener à des choses assez intéressantes ou à des discussions assez intéressantes. Alors, je vous rappelle la question. Quel comportement des autres automobilistes vous répugne ou encore vous agresse? Et je vous rappelle par le fait même que les questions ne sont pas périmées, là, les questions des autres semaines. Si vous n'avez pas eu le temps de nous appeler, par exemple, ou si vous nous avez laissé une question via Auto360 à cogecomedia.com. On peut évidemment y revenir et y répondre. La semaine dernière, nous avons utilisé un anglicisme, messieurs, ou plutôt Marc, parce que Philippe est là. On a utilisé, et c'est pas moi, c'est un auditeur qui a parlé de zipper. Je sais pas si tu te souviens. Et là, j'ai eu plein de messages concernant le fameux zipper. C'est quoi la fermeture éclair pour parler en français? Alors, la fermeture éclair, c'est simplement un système d'alternance donc l'un après l'autre, lors d'un rétrécissement de voix. Donc, si on passe de 3 voix à 2 voix, de 2 voix à 1 voix, lorsque il y a de la courtoisie et que la fermeture éclair s'effectue de façon adéquate, c'est que la circulation va être beaucoup plus fluide. Je te laisse passer, tu me laisses passer, je te laisse passer, tu me laisses passer, et on voit que de cette façon-là, ça va très bien. Si jamais il y en a un ou deux tête dure, qui réussissent pas à s'entendre. Là, ça bloque et ça, évidemment, la circulation et ça crée un bouchon à l'arrière. Donc, plus il y a de courtoisie et plus l'effet de fermeture éclair est efficace, mieux la fluidité va être efficace.
Tu connais les fameux Mythbusters, les stupéfiants en français.
Ouais.
C'est une émission de télé dans laquelle ils avaient fait le test justement de cette méthode-là, la méthode de fermeture éclair. Et eux estimaient que tu pouvais sauver jusqu'à 35 % de temps si c'était fait de façon efficace parce que ça empêche les gens de freiner inutilement. Donc, tu l'as dit, c'est la courtoisie le mot-clé dans ce temps-là. Et le mot zipper, je m'excuse, c'est en anglais, mais c'est encore le plus imagé, c'est le plus facile à comprendre. Alors, je pense que les gens comprennent assez bien ce que ça veut dire.
Alors, si vous voulez me parler de zipper ou si vous voulez me parler de la question du jour ou vous poser votre question, donc auto360 à cogecomedia.com ou encore pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330 ou ailleurs au Québec 1-866-790-9850. On fait une pause et au retour, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco, Auto 360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soudures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Nous voilà de retour et je vous rappelle la question du jour. Quels sont vos comportements ou quels sont les comportements des automobilistes qui vous répugnent ou encore qui vous agressent? Et merci d'être là en ligne. Une petite nouvelle, Marc, rapidement avant de prendre les appels des gens.
Ouais, ben on parle beaucoup de voitures autonomes. On a l'impression que ça se passe loin de chez nous. Mais cette semaine, il y a eu pour la première fois au Canada l'essai d'une voiture autonome dans la région d'Ottawa. En fait, c'est dans le parc industriel de Kanata et c'est la compagnie BlackBerry QNX qui a fait le test. On se rappelle que BlackBerry s'est associé à différents manufacturiers au cours des années pour développer des choses. Alors, on a fait la première fois avec une Lincoln Continental. Écoute, on a fait à peu près 1 km en ligne droite, on a fait demi-tour, on est revenu. C'est à peu près tout ce qui a été possible de faire. La particularité, cependant, c'est que, comme il s'est entendu avec la ville, la voiture était connectée avec les infrastructures, c'est-à-dire avec les feux de circulation, pour être capable de savoir exactement où elle s'en va. C'est une première dans le genre. Honnêtement, c'est une bonne chose parce qu'on rappelle que la région d'Ottawa, c'est là que Ford, c'est là que GM ont investi dans leur centre de recherche pour la voiture autonome. C'est donc là qu'a eu lieu la première canadienne d'une voiture autonome.
Hey, j'ai hâte d'essayer ça, moi, dans une quinzaine d'années. Là. Éric est en ligne. Bonjour, Éric.
Oui, salut, Daniel. Salut, Matt.
Salut.
Là, vous m'avez craqué, là, le zipper. Ça, craqué.
OK, vas-y.
Ah, pas de bon sens. Dans la région de Québec, là, c'est épouvantable. À chaque fois qu'il y a un zipper, là, il y a tout le temps un fin finot qui fait 4 km avant le zipper, puis qui reste dans la gauche pour être sûr que personne profite de la gauche jusqu'à la fin.
Ouais. Ça vient frustrant.
Oui, puis les camionneurs sont forts là-dessus aussi. Pas mal, pour là-dessus. Je dis bien franchement, tout le monde qui sont supposés connaître les règles de la route, là, ça fait dur là-dessus. Là.
Écoute, je suis d'accord avec toi pour les camionneurs, sauf que je suis quand même prêt à les excuser un peu parce qu'eux autres, ils essaient, en tout cas dans plusieurs cas, ils essaient de rétrograder le moins possible, de garder un certain rythme à peu près constant. Donc, ils s'arrangent pour avoir un chemin un peu dégagé en avant d'eux autres. Je comprends que dans certains cas, c'est de la paresse, on s'entend, mais je peux comprendre que dans certains cas, ils ont besoin d'un peu plus d'espace.
Ouais, non, mais ils se laissent pas aller. Là. Tu vois qu'il y en a, là, ils se mettent là, 2 camions à côté de l'autre, là, puis quand ça arrête, l'autre arrête dans la gauche. C'est complètement inacceptable. Là. T'as 1 km à peu près d'avance là, dans la gauche. En tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les règles du CSR. Là.
Donc, ce que tu me dis, Eric, c'est soyez donc un petit peu plus courtois, ça va mieux aller.
Ouais, mais moi, je suis patient au volant, mais ça, là, ça me fait complètement sortir de mes gonds. Bon.
Merci d'avoir appelé, Eric. Hey, Jimmy est en ligne. Jimmy est en ligne. Bonjour, Jimmy.
Oui, bonjour. Je vous appelais parce que je suis vraiment d'accord avec vous. Ça, tu sais que quand on s'en va dans la ligne gauche, il y a des gens qui roulent à 80, mais des fois 90, et comme hier, j'ai remarqué dans la 19, quelqu'un qui roulait à 80, puis qu'est-ce qu'il était en train de faire? De texter. Puis j'ai passé à côté parce que j'ai suivi un bout, puis j'étais tanné, puis j'ai dépassé pour le côté droit, puis j'ai regardé la personne était en train de texter au volant.
Ah! Fait que ben, ça vous met en beau fusil les gens qui textent au volant.
Exactement. Puis, mais avec la surveillance de la police et tout ça, beaucoup, beaucoup de monde qui font ça. Puis, c'est malheureux parce qu'il peut y avoir d'accident. Puis, ça m'arrive autrefois aussi que quelqu'un que j'étais aussi, je l'ai collé, puis il m'a freiné. Ça, j'ai pas embarqué à l'arrière, mais c'est dangereux vraiment le monde qui conduit dans le côté gauche et puis il roule pas vite.
Merci beaucoup de votre commentaire. André est en ligne. Bonjour, André.
Bonjour. André. Oui, bonjour. Est-ce qu'on doit se limiter au sujet du jour?
Ben non. Cette émission-là vous appartient. Vous parlez du sujet qui vous plaît.
Ben, ma question va sur le Mitsubishi Outlander, 6 cylindres, 2017. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Excellent véhicule. Le 3 litres, écoutez, ça, on parle pas de nouvelles technologies avec ce moteur-là, mais on parle d'efficacité et de longévité possible. C'est un moteur qui est vraiment éprouvé, puis qui est éprouvé pour longtemps, évidemment, parce que ça fait longtemps qu'il roule. Alors, il y a quand même une belle... il y a quand même de la puissance, 224 chevaux. C'est correct, vous n'aurez pas l'impression là, d'être dans un véhicule de course. Il y a du couple aussi, il y a une bonne capacité de remorquage à 3500 livres. Alors, ce véhicule-là, dans l'ensemble, le Outlander, c'est définitivement le meilleur véhicule chez Mitsubishi. Et la garantie, il faut parler absolument de la garantie. La garantie est exceptionnelle, surtout qu'elle est encore en vigueur, je crois, le 10 ans, 160 000 km, oui. Marc, au complet,
ans,
de
oui,
pare-choc à pare-choc. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un bon véhicule, bien construit, bien assemblé, bien garanti, c'est avec la meilleure garantie, c'est un excellent choix.
Mais comme Daniel l'a mentionné, c'est pas la dernière technologie cependant. Il va vous coûter un petit peu plus cher d'essence que ses concurrents dans la même catégorie. Par contre, il y a un rouage intégral. Le système AWC de Mitsubishi, c'est un des meilleurs dans sa catégorie. Alors honnêtement, j'ai rien à redire contre ce véhicule-là non plus. Et actuellement, Mitsubishi est dans une opération charme. Vous avez souvent des rabais et des incitatifs financiers. Ça vaut la peine d'aller les voir.
Effectivement, je suis allé les voir et c'est très concurrentiel comme prix. Et c'est sûr, si on compare avec ce qui se fait, par exemple, avec le CRV ou quoi que ce soit, là, au niveau des prix, c'est très avantageux. Par contre, le bémol, c'est que j'ai lu différents articles. Évidemment, il faut savoir à quoi s'en tenir quand on lit sur Internet, mais c'était un article quand même assez fiable là, et qui dénigrait beaucoup la fiabilité à long terme des Mitsubishi dans l'ensemble. Et tapait pas mal sur le clou du Outlander. Ben, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Je sais qu'il y a de tout, évidemment,
quand
on lit.
Je suis pas d'accord, surtout sur le Outlander. Je suis vraiment pas d'accord parce que, vraiment, là, mis à part peut-être le système de freinage qui est pas le plus résistant au monde, qu'on doit le remplacer à un kilométrage là, quand même raisonnable, je pense que dans l'ensemble, le reste des composantes, c'est quand même assez fiable. Puis là, vous avez une garantie de 10 ans, 160 000 km d'un pare-choc à l'autre.
Oui, effectivement.
Là, c'est la 11e année que vous devez vous inquiéter. C'est dans 11 ans. Là. Et si vous faites l'entretien...
Même si la garantie est là, si on tombe en panne régulièrement, c'est pas avantageux.
Non, oubliez ça. Là. Vous ne tomberez pas en panne à tous les coins de rue avec la Outlander, plus que n'importe quel autre sur le marché présentement.
Dirais probablement
je pense
moins
au niveau
aussi.
Ouais, peut-être moins que certains modèles. Alors, dans l'ensemble, allez-y, il n'y a aucun problème. Vous n'aurez pas plus de problèmes que d'autres véhicules équivalents.
Et peut-être une dernière question.
Rapidement, depuis longtemps.
Vous avez parlé de consommation. Il est coté sur une moyenne de 10 litres au 100 km. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste sur la moyenne?
C'est réaliste comme toutes les consommations sont réalistes. Moi, je pense que c'est un peu optimiste, je vous dirais. Ouais. Là. Moi, j'ai fait plus que ça avec le véhicule, mais c'est pas, y a pas une différence de 10 litres au 100. Là. Vous allez faire 11, 11.2. Vous serez pas très loin de ce que le manufacturier vous assume. Là.
Merci beaucoup. Ronald est en ligne. Bonjour, Ronald.
Bonjour. On va revenir à la discussion là,
bon.
Du trafic. Moi, je vais là régulièrement. J'avais un bateau au lac Champlain. Puis le vendredi soir, ben le vendredi, je finissais de bonne heure. Puis là, j'allais chercher ma femme, puis on s'en allait au lac. On prenait la 15. Ça m'est arrivé rien qu'une fois, par exemple. Là, il y avait une madame, deux madames dans une auto qui étaient en train de dépasser une remorque. Puis elle m'a amené à le lever le pied. Puis là, elle restait à côté de l'auto. Fait que moi, je me suis avancé tranquillement, puis je l'ai poussé, je l'ai fait dépasser l'automobile, la remorque. Le gars de la remorque, il a fait aller ça flotte deux, trois fois en voulant dire merci.
Donc, elle avait décidé de ne pas le dépasser vraiment puis de rester à côté.
Alors, disons que je ne le ferai pas ça aujourd'hui. Là, ça.
Ben, j'espère, non.
Mais il y a une autre affaire que j'ai déjà faite, par exemple. Je m'en allais encore au lac, puis j'étais sur la 132-15, là, puis j'étais en train de dépasser un véhicule, c'était un SUV. Puis là, le monsieur, il avait son petit garçon assis sur lui, puis le petit bonhomme, il avait peut-être quoi, 4-5 ans. Fait que c'est pas normal, ça, je reste en arrière. Puis j'ai appelé SQ cardiaque, puis ils l'ont ramassé. Ils l'ont beurré. Ils ont donné un bout de ticket.
Bon, c'est bon. Ouais. Ça, de jouer à la police comme ça. Merci beaucoup d'avoir appelé. Mario, okay, maintenant, faut que je parle à Mario.
Bonjour.
Mario est là. Bonjour, Mario.
Allô, ça va bien?
Oui.
Oui, moi, c'est... Moi, ce qui m'arrive, c'est ceux qui gèrent mal leur virage à droite en ville. Je te donne un exemple. Imagine le boulevard Christophe Colomb, direction sud, il y a trois voies. Il y a la voie de gauche, la voie de centre, la voie à droite. On s'entend que la voie à droite, elle est réservée au stationnement. Mais quand tu approches de l'intersection, il n'y en a plus de stationnement. Donc, si tu veux virer à droite, au lieu de ralentir dans la voie de centre, tu tournes dans la voie de droite, tu t'installes à droite, tu ralentis. Là, tu fais ton virage à droite. Maintenant, les gens restent dans la voie du centre jusqu'à l'intersection, ralentissent toutes les voitures derrière.
Puis ils coupent ceux de la voie droite. Ouais. Puis ils vous coupent d'en face ceux de la voie droite. Ah oui.
Ouais. Il y a beaucoup. Vous parlez de Christophe Colomb. Dans ce coin-là, il y a une signalisation qui est pas facile à comprendre, par exemple. Comme vous dites, effectivement, la troisième voie devient accessible pour tourner à droite en approchant de l'intersection, mais parfois c'est assez proche de l'intersection. C'est pas facile à savoir. Je comprends qu'on n'a pas de raison de couper personne, là. Jamais. Et qu'il n'y a rien de pire de se faire couper. Mais je vous dis qu'à Montréal, la signalisation puis la ville de Montréal, c'est comme deux mondes, par exemple.
Ouais, mais quand l'espace est là, c'est gros bon sens de ranger à droite avant de ralentir pour faire son virage à droite plutôt que de faire traîner tout le monde en voie de France.
Ah oui. Malheureusement, le gros bon sens est en option avec le permis de conduire. Hein?
Le virage... comme les clignotants, d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Ouais, t'as raison, Mario, parce que le virage à droite pourrait être un sujet de discussion à lui seul. Les gens qui ne regardent pas les piétons qui ne regardent pas les autos, les cyclistes, et bref, la courtoisie de ce côté-là pourrait être davantage. Merci beaucoup d'avoir appelé. Stéphane est là. Bonjour, Stéphane.
Oui, bonjour. Bonjour à vous deux, puis bonne question aujourd'hui.
Oui.
Hey, on conduit du mal au Québec, on ne rien qu'un peu, hein, ça n'a pas de bon sens.
Ça a donc bien été long avant d'avoir quelqu'un qui nous l'avoue.
Ça n'a pas. On va aux États-Unis, ailleurs, en Ontario, le monde qui garde leur vitesse, c'est pas comme au Québec, ils gardent leur vitesse. S'ils prennent, que le monde roule à la vitesse qu'ils veulent, ça, j'ai pas de problème. Vous voulez rouler 10 km en bas de 100 km heure, faites-le, mais bloquez pas les autres. Ça, je respecte ça, ceux-là qui veulent rouler plus vite, plus bas, mais... Soyez, prenez votre place, si vous dépassez, faites un dépassement, puis tassez-vous après, venez pas bloquer lors du dépassement. Puis ce qui m'horripile le plus, là, c'est sur une route comme un peu l'autoroute 50. On s'en va vers Gatineau, mettons, la zone est 90. Les gens, quand moi je m'en viens, mettons, à 115, après 105, 15 en haut de la limite, on est sur le course, on roule, on pogne ce que vous appelez un zipper. Là, les gens vous dépassent à 20-25 en haut de la limite de kilométrage. Puis quand ils arrivent dans la zone d'une voie, là, whoop, ils repensent puis ils se mettent à soit sur la limite ou à 5 km en haut. Puis toi, qui es sur le cruise control, tout le long, tu t'en viens, tu gardes ta vitesse, puis là, tu arrives puis tu te fais bloquer par la personne. Ça m'enrage, c'est épouvantable. Fait que c'est un peu ça au Québec, là. Vraiment, là, si les gens pourraient faire attention, et courte-toi vis-à-vis les autres.
Merci beaucoup, Stéphane. Alors, si on se fie à Stéphane, ça chauffe mal au Québec. Éric, es-tu d'accord? Salut, Éric.
Oui, bonjour.
Bonjour, ça va?
Oui, je suis d'accord. J'étais un chauffeur de camion remorque moi-même. Là. Je suis bien d'accord, mais par contre, le monde qui dépasse, comme il dit, n'ayez peur. Moi-même, je peux dire que j'aime pas être en arrière d'un camion. Même si ça fait 23 ans que je conduis des camions remorques, j'haïs être en arrière d'un gros mur. Fait que eux autres, ils dépassent, il faut voir en avant. Tu sais, de ce temps-là, on ralentit. Coudonc, on n'a pas le choix. Puis l'autre affaire, qui me fait vraiment capoter, moi, c'est on prend le bretelle, tu sais, c'est pas moi. On est à la métropolitaine, on décide de descendre vers le tunnel. On pogne la bretelle, mais il y a toujours du monde là qui change de voie, sa ligne continue. Hey! Tu changes de voie, puis tu es là, puis tu roules en pépère, puis t'arrives à côté de moi, tu m'empêches de me tasser parce que toi, le sans dessin, t'as décidé de passer tout de suite alors que t'avais pas le droit.
Voilà.
Ça, c'en est une affaire qui est pas mal fatigant. Puis une autre affaire qui me fait capoter, c'est quand tu roules sur la 132, direction Pont-Champlain, à partir du tunnel, mettons, à partir de la 20 direct de Québec, tu sors à la 132, tu t'en vas vers le pont, là. Là, tu roules dans la voie du centre. Nous autres, on n'a pas le droit à la gauche, les camions. Tu sais, mais ça roule pas à droite. Puis l'autre, papa, il avance pas dans la voie du centre, puis il se tasse pas. Tu le colles pareil, puis il se tasse pas, puis il roule pas, puis il roule pas. Puis c'est pas 70 ce coin-là, c'est 100. Puis il comprend pas, lui, pourquoi que tu veux avancer. Tasse, va-t'en à droite. C'est pas grave, si tu vas à droite, tu te retasseras après, au pire. Laisse-moi passer. Donc, c'est ça mon opinion, mon cher.
Merci, Eric. Très apprécié ton opinion. Ça va dans le même sens que Stéphane. Mais là, Samuel est là. Mon propos est parler tout de suite à Samuel parce que là, il faut faire une pause. Puis après ça, c'est l'histoire de la Corvette. Puis on revient avec vos appels. Promis juré, restez avec nous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Nous sommes de retour avec le bloc à Philippe Lagu. Je m'attendais à ce qu'on ait une petite présentation. Mais Philippe est là. Salut Philippe.
Allô, allô, allô. M'entends-tu?
Salut.
Oui,
bon. Bon, voilà.
On est là, on est là.
Philippe, on va faire rêver les gens en parlant de Corvette. Et là, tu nous ramènes dans l'histoire et dans une belle histoire.
On peut dire qu'on parle d'une voiture mythique, hein? Et le mot mythique est peut-être utilisé à tout vent là, dans l'industrie automobile, surtout par les spécialistes de marketing. Mais il faut bien admettre que c'est un qualificatif approprié quand il est question de la Corvette. D'abord, en raison de sa longévité, hein, la Corvette existe depuis 1953, ce qui en fait, à 65 ans, bien sonner la doyenne des voitures sport. À titre de comparaison, là, c'est 11 ans de plus que la Mustang et la Porsche 911. Puis mythique aussi parce que comme la Mustang et la 911, justement, la Corvette est une icône. Une icône de la culture américaine, là, au même titre qu'Elvis, Marilyn Monroe ou la bouteille de Coke. Mais une icône qui n'est pas restée figée dans le temps. Puis évidemment, dans une carrière de plus de 60 ans, ben, il y a eu des hauts puis il y a eu des bas. On va y revenir. Mais la Corvette est encore là. Et quoi qu'en disent les mauvaises langues, elle est toujours pertinente. Et vous allez le voir dans le deuxième bloc, là, meilleure que jamais. Mais avant de commencer, je vous invite, comme toujours, à aller voir ma page Facebook où vous pouvez voir des photos des Corvettes de toutes les générations. Il y a aussi, j'ai aussi du matériel sur mon site www.philippelagu.com où on a déjà fait quelque chose sur la Corvette de deuxième génération. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur l'histoire de la Corvette, là, bien, je vous invite à lire l'excellent et incontournable dossier de mon collègue Alain Morin du Guide de l'Auto. Et son dossier, c'est du travail de moine et il justifie à lui seul l'achat du livre. Je pense que tu l'as vu toi aussi, Daniel.
Oui.
Ah, voilà. Donc, la Corvette voit officiellement le jour le 30 juin 1953 à l'usine de Flint, au Michigan, d'où sort le tout premier exemplaire. Au début de la même année, elle avait été présentée officiellement à New York dans le cadre du Motorama, une exposition annuelle itinérante qui servait à présenter les futurs modèles de General Motors. Puis du même coup, ben, on tâtait le pouls des consommateurs aussi. Et derrière la Corvette, hein, faut le dire, il y a deux hommes, Alfred P. Sloan, celui qui a été le plus longtemps aux commandes de GM et qui en a fait le géant qu'il est devenu, et Harley Hurl, une autre légende de l'industrie automobile, qui a été le premier à diriger le département de design de General Motors. Et sans ces deux hommes, il n'y a pas de Corvette. Alors, Harley Hurl a un coup de cœur pour la Jaguar XK120, une voiture qu'il découvre lors de ses voyages en Europe. Et à la même époque, là, on est après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi des GI, des soldats américains qui reviennent d'Europe et qui rapportent avec eux des petites voitures sport, surtout des Anglaises. Et puis d'ailleurs, hein, les Austin Healey, MG, Triumph et Jaguar vont ensuite être exportés aux États-Unis. Alors, l'idée de construire une sportive décapotable 100% américaine, là, elle vient de là. Et c'est donc la Jaguar qui sert d'inspiration, mais c'est une voiture qui est assez dispendieuse à l'époque. Et chez GM, on veut bien faire une sportive, mais évidemment, on veut la faire plus abordable. Alors, c'est pour cette raison, entre autres, que sa carrosserie va être en fibre de verre, parce que le temps presse et que c'est moins long et moins cher que de concevoir des moules pour fabriquer une carrosserie en acier. Et c'est comme ça que la Corvette va devenir la première voiture de série construite en fibre de verre. Et pour réduire les coûts au minimum, hein, ça revient souvent dans l'histoire de GM, Daniel.
Oui.
On pige dans la banque d'organes de Chevrolet. Moteur, transmission, suspension, direction, toute la mécanique de la Corvette existe déjà. Ce qui explique pourquoi on a pu passer aussi rapidement de la conception à l'assemblage. Harley Hurl, lui, aurait bien voulu un V8, mais à l'époque, il y a une hiérarchie au sein des divisions de GM et le V8 est un privilège réservé au Buick et au Cadillac. C'est donc un six-cylindres en ligne d'origine assez modeste, hein, un moteur Chevrolet surnommé le Blue Flame qui loge sous le capot des premières Corvettes et c'est son principal handicap. Parce que non seulement il n'est pas très puissant ni très raffiné, mais en plus il est jumelé à une transmission automatique à deux vitesses, la bien mal nommée Power Glide. Et là, ben, vous avez le parfait exemple d'une décision de comptable qui tue un bon projet. C'est un phénomène qui va devenir récurrent chez GM au point où on peut parler de culture d'entreprise et qui va être à l'origine de plusieurs fiascos chez ce constructeur. La Corvette passe elle-même très proche d'en être un. Hein, les deux premières années, elle se vend très peu et c'est l'ajout d'un V8 en 1955 qui va la sauver du naufrage. Ça, et une baisse de prix, tout juste en bas de 3 000 $ pour une Corvette V8. Imagine, la 6 cylindres au début coûtait plus cher. Oh, c'était presque aussi cher que la Jaguar, hein, ce qui était un autre problème. Mais ce qui a aussi sauvé la Corvette, c'est l'arrivée de sa concurrente, la Ford Thunderbird. Parce qu'abandonner la Corvette, ça aurait été un aveu d'échec pour GM, et surtout, il ne fallait pas laisser le champ libre à Ford. Alors, en 1956, on abandonne le 6 cylindres pour de bon et la carrosserie a droit à ses premières modifications importantes. À partir de là, la Corvette devient de plus en plus puissante, de plus en plus sportive et de plus en plus raffinée. En 1957, par exemple, le V8 est proposé avec l'injection d'essence, ce qui est révolutionnaire là, à l'époque. Là. On les surnomme les Chevrolet Fuelly, on va en produire un peu plus de 1000 et elles sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. Mm-hmm. Alors, la Corvette a non seulement survécu, mais en 1960, la production annuelle va dépasser pour la première fois 10 000 exemplaires. Après avoir passé proche d'être abandonnée, c'est quand même...
c'est quand même très bon.
Oui, il faut le souligner. Ben et oui. Puis, entre-temps, Daniel, Harley Hurl a pris sa retraite. Et c'est Bill Mitchell qui le remplace à la direction du design chez GM. Mitchell, lui, va confier à un de ses protégés, Larry Shinoda, la conception d'une voiture de course, la Stingray. Et c'est elle qui va servir d'inspiration à la prochaine Corvette. Elle va même lui donner son nom. Et la deuxième génération, bien, elle voit le jour en 1963. Et pour beaucoup d'amateurs et de spécialistes de la Corvette, là, c'est la quintessence, le summum de ce modèle.
Et c'est encore dans les plus recherchés aujourd'hui.
Ben, voilà. Bien, les changements sont nombreux en ce moment-là. Il y a un nouveau châssis, carrosserie qui est redessinée au complet. Et pour la première fois, la Corvette se décline en deux configurations, coupée et décapotable. Et c'est aussi sur la C2 qu'apparaissent les phares escamotables. Mm-hmm. 1963, c'est l'année de la split window, la vitre arrière qui est séparée dans le milieu, et le séparateur va être éliminé l'année suivante parce qu'il nuit supposément à la visibilité. Mais aujourd'hui, la split window, c'est le saint graal des collectionneurs de
Corvette. Si vous en avez une split window, wow!
Oui, là, vous venez...
Sortez ça du garage si vous avez besoin d'argent. Oh, ça va être du monde d'or.
Ça va être votre fonds de pension, assurément.
Ah oui.
C'est aussi ma Corvette préférée. Hein. Moi, la split window là, fait partie de mon top 5 personnel. Et c'est avec la Corvette de deuxième génération, la C2, que commence la course à la puissance. En 1963, son V8 de 327 pouces cubes, le small block qu'on appelait, développe entre 250 et 360 chevaux selon la version. Et à partir de 1965, Chevrolet va aussi proposer ses big blocks. D'abord le 396, ensuite le 427 ou si vous préférez 6,5 et 7 litres,
ouais.
C'est des gros moteurs. Et avec ces gros moteurs, ben, on dépasse la barre des 400 chevaux et même 450 pour le 7 litres. Là, on est au milieu des années 60, il ne faut pas l'oublier. Et ben, même aujourd'hui, 450 chevaux, là, c'est un chiffre plus que respectable. Alors, imaginez il y a 50 ans. Là. Alors, la C2 va durer 5 ans, 1963 à 1967 inclusivement, et elle place la barre très haute pour la génération suivante.
Bon, parle-moi de la C3.
Ben, la C3 va durer, elle, trois fois plus longtemps. Elle va durer 15 ans. Si on regarde le verre à moitié plein, c'est celle qui a duré le plus longtemps, mais si on regarde le verre à moitié vide, on est plutôt porté à dire qu'elle a duré trop longtemps.
Trop longtemps.
Ouais, c'est ça,
c'est
le problème.
Mon opinion.
Moi aussi. Autant la C2 fait l'unanimité, là, ou presque, auprès des amateurs de Corvette, autant la C3, c'est une génération qui polarise les opinions. C'est aussi pendant cette période que va s'amorcer son déclin. Pourtant, ça commence pas si mal pour la C3. Au début, c'est surtout la carrosserie qui monopolise le débat. Alors, tant que c'est juste ça, c'est pas trop grave. Le design est grandement inspiré du prototype Mako Shark, qui a été dessiné lui aussi par Larry Shinoda. Il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui détestent, mais son profil qui est tout en courbe et qui est inspiré de la forme d'un requin est vraiment spectaculaire et ça donne une identité très forte à la Corvette qui ne ressemble à aucune autre voiture sport. Déjà ça, c'est pas rien. Et visiblement, les admirateurs sont plus nombreux que les détracteurs parce que la C3 bat des records de vente dès sa sortie. Elle reprend le châssis de la C2, les mêmes éléments mécaniques aussi, mais la course à la puissance va se poursuivre avec des augmentations de cylindrée, autant pour les small blocks que les big blocks. Et on atteint le paroxysme en 1969 avec un gros bloc de 454 pouces cubes, 7,4 litres. Et si la Corvette est une des rockstars de l'automobile, elle va avoir un parcours aussi chaotique que celui d'une rockstar. Tu as déjà écouté, Daniel, des musicographies de Musimax. Tu as toujours l'ascension, la consécration, puis après ça, la descente. C'est ça. Alors, la Corvette va être victime de ses excès, mais elle va aussi être victime, puis il faut le dire, là, des bouleversements économiques et sociaux des années 70. D'abord, la première crise du pétrole en 1973. Ensuite, l'avènement de normes anti-pollution de plus en plus sévères. Tout ça va amener une constante diminution de la puissance qui va atteindre un creux historique en 1975, avec 165 chevaux. On est loin des 400 et 450 chevaux, là. Mais il y a aussi le mouvement féministe qui va contribuer à ostraciser, j'allais dire castrer, la Corvette, qui va devenir, bien malgré elle, un symbole du machisme, au même titre que la moustache, le poil sur le chest et ou la corne d'abondance dans le cou, là. Et c'est encore pire au Québec, avec le célèbre dicton qui, 40 ans plus tard, colle encore à la Corvette.
Hey, tu peux pas le dire.
Non, puis je le dirai pas non plus. Je le dirai pas parce que je suis plus capable de l'entendre. Je tiens à le dire. Puis c'est un dicton qui est toujours répété là, ad nauseam par des gens qui, évidemment, en ont jamais conduit une et qui savent donc pas de quoi ils parlent. Parce que la Corvette, après avoir été déclarée cliniquement morte, va renaître. Et ça, je te garde ça, Daniel, pour le prochain bloc.
Et je me peux plus, j'ai déjà hâte au prochain bloc. Merci, Philippe. On se reparle tout à l'heure, évidemment. Je vous rappelle la question du jour, courtoisie. On parle un peu de courtoisie. Quel comportement des autres automobilistes vous répugne ou encore vous agresse? On fait une pause et au retour, on vous parle. Restez là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, et on parle à Samuel, Luc et Patrick dans un instant. Marc, nouvelle de l'industrie.
Ouais, une petite nouvelle, si tu as envie d'acheter une Porsche, mais que tu n'as pas les moyens, peut-être que tu aimes mieux calculer ça mensuellement.
Ah, peut-être.
Alors, Porsche USA vient de lancer un programme, un projet pilote, en fait, pour le moment, c'est à Atlanta. On parle de l'étendre à la grandeur de l'Amérique du Nord. Pour 2 000 $ par mois, tu as droit d'utiliser une Porsche et de changer de Porsche à l'occasion. Donc, ça va te donner droit à une des 8 variantes Porsche, là, Boxster, Cayman, Macan, Cayenne. Et tu vas pouvoir changer, donc passer 2 semaines avec une, 2 semaines avec l'autre. Et c'est 2 000 $ par mois, 500 $ de frais de membership pour commencer. On lance le programme actuellement, ça devrait suivre à New York par la suite. On sait que c'est pas le premier manufacturier de luxe à faire ça. Cadillac avait fait la même chose à New York. Et ça n'a pas été un grand succès avec Cadillac. On verra ce que ça va donner pour Porsche.
Ben, c'est parce qu'à 1 000 $, tu peux dire c'est correct. À 15, mais tu sais, 2 000 $, ça dépend toujours du prix, mais attention. Cette façon de faire s'en vient dans l'industrie automobile et ça s'en vient et c'est à l'étude présentement où on ne vendra plus seulement une voiture, mais on va vendre des abonnements. Et les gens vont s'abonner à Chevrolet, ou à GM, là, ou à Ford. Et selon les besoins, tu vas pouvoir aller chercher un F-150, tu vas pouvoir aller chercher une Fiesta si tu veux économiser du carburant, et tu vas pouvoir aller chercher d'autres véhicules. Le jour où on va trouver l'équilibre dans le paiement et dans le prix, où on va pouvoir peut-être moduler si tu prends un F-150, où tu vas être capable de prendre, et tu n'auras plus besoin justement de louer un véhicule, puis d'être pogné avec ton véhicule pendant 4 ans, qui ne répond pas pendant les 4 années à 100% de tes besoins. Si tu as besoin d'un camion pour ton véhicule récréatif, ben, tu ne l'as pas 100% du temps en arrière, tu l'as 2 ou 5% du temps. Alors, ce genre de façon de faire-là est à l'étude, mais on va y revenir. Samuel est en ligne depuis fort longtemps. Salut, Samuel.
Salut.
Ça va?
Moi, trois choses. Oui. Premièrement, les textos volants. Ça n'a pas de sens. C'est un fléau. Je peux bien croire qu'il y a des contraventions pour ça, mais faudrait...
Le message passe pas.
Non, le message passe pas, puis il faudrait vraiment mettre ça plus sévère, là, criminaliser là, au niveau de comme l'alcool. Là.
Samuel, t'as de l'âge, toi? Samuel, on peut-tu te demander ton âge?
Ben, moi, j'ai 34.
34, tu vois, 34, et vous êtes ça, déjà conscientisé au fait, et ben, moi, je trouve ça superbe, que de plus en plus, les jeunes commencent à être conscientisés des dangers du cellulaire au volant et des autres choses. Bravo,
Samuel. Ah non! Ah, regarde, c'est un fléau. Mais pour en revenir à votre sujet, qui m'interpelle beaucoup. Deuxième chose, le monde qui... Ben, je reviens un peu à qu'est-ce que vos auditeurs disaient avant. La voie de gauche sur l'autoroute, c'est faite pour dépasser.
Ouais.
Quand il y a deux autos de coller, là, c'est incroyable. Là. Je veux dire, ça a même plus de sens.
Moi aussi, je suis pas capable.
Ah... 100 km/h, le gars, il roule à 80, un autre. Tout ça pour en venir à mon premier sujet. Ben moi, la première chose qui m'interpelle, c'est suivre tes limites. Excusez l'expression, je capote. Je vois là, les gens. Moi, j'habite sur la Couronne-Nord. Depuis 10 ans, c'est incroyable là, le trafic, comment ça a augmenté. Comment je te dirais ça? 90, si tu peux au moins rouler ta vitesse, me semble que ça va être un peu plus agréable pour tout le monde. Là, t'sais. Je ne sais pas comment les gens ils se voient dans leur auto. On dirait qu'ils se sentent comme tout seuls. C'est juste moi qui ai sa route. Ah, moi, 90, je vais rouler 70. Il n'y a pas de problème. Je suis prudent, blablabla. Bla, bla. Non, c'est 90. Tout ça pour dire...
OK, parfait. Et je comprends très bien ton point de vue au niveau de la vitesse, puis ça arrive régulièrement. Et je pense que, évidemment, là, les forces policières s'en occupent pas des gens qui roulent vraiment pas vite parce qu'il y a une vitesse minimum quand même sur l'autoroute. Mais est-ce que un des problèmes serait pas le manque de voies sur nos autoroutes? Tu sais, la 20 et la 40... Merci, Samuel, d'avoir appelé.
Merci.
Sont seulement à deux voies. Ça devrait être du 3 et du 4 voies.
Ouais, mais en même temps, ça, c'est un problème. Tu sais, on parle beaucoup de congestion. Plus tu vas multiplier les voies, plus tu vas avoir de voitures, plus tu risques d'avoir de congestion. Moi, je pense qu'il y a un
peu... Marc, on multiplie les voies, on multiplie pas les voitures, on multiplie les voies.
Ouais, mais ça va avec ça. L'expérience le prouve, Daniel. Plus tu multiplies les voies, tu règles pas le problème à terme.
Demain matin, les gens qui vont s'acheter des voitures le font pas en fonction de l'élargissement de la 20. Si on met la 20 en 3 voies, c'est pas demain matin tout le monde qui va aller s'acheter des voitures, même si t'en as pas besoin.
Regarde,
si besoin de voiture, va en acheter de toute façon, peu importe que la 20 soit à 2 voies ou 3 voies.
Regarde la 401 dans le coin de Toronto. Il n'y a pas une ville qui est plus congestionnée que Toronto. Pourtant, il y a comme 6 voies par portion.
Imagine s'il y avait
ça continue de l'être. Puis ça l'était avant quand ça avait 4 voies. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide, puis ça se comble. L'idée, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est une question d'éducation. C'est ça qu'il faut montrer. Il faut que les gens apprennent à conduire, ce qu'on n'a pas vraiment fait pendant bien des années.
On parle à Luc en une minute, Luc. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est juste pour faire un commentaire. Qu'est-ce qui décide de la vitesse sur les autoroutes? Tu vas sur la métropolitaine. Oui, tu vas sur la métropolitaine à 3 voies, pas de piétons, pas de cyclistes, c'est 70. Tu vas sur une route secondaire, c'est 90. C'est-tu pour faire de l'argent? C'est-tu pour...
Ce serait intéressant de parler aux gens du ministère des Transports. Est-ce qu'on réduit volontairement dans certains endroits la vitesse pour créer des trappes à tuquettes? Non, je veux...
Je penserais pas, il ferait pas ça.
Ben non,
on n'est pas cynique comme ça, Daniel.
Arrête,
jamais.
Là, c'est quoi cette façon de penser-là? Dan, va t'informer, puis au retour, on parle à Philippe Lagu et on vous parle. Restez là, Auto 360.